Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce service protestant. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. La paix, l'introuvable paix, la paix, pas n'importe quelle paix, la paix du Christ, celle par exemple que le Christ donne à la femme pécheresse quand il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Vas en paix. La paix de celle qui se sait aimer et pardonner. La paix qui vient de la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données. La paix par la grâce. Et c'est ce Dieu de grâce que nous voulons louer à présent. Notre Dieu, nous te prions avec des mots humains, bien trop humains. Nous ne pouvons nous faire une image véritable de toi, car tout ce que nous nous figurons est figuré à notre image. Nous ne pouvons te concevoir quand notre pensée s'égare, quand elle quitte la terre ferme, des réalités accessibles à nos yeux et à nos oreilles. Nous ne pouvons pas même affirmer que tu existes, car que signifie au juste « exister » pour toi qui n'es ni une chose, ni un être vivant, ni une idée, ni une personne comme nous. Et pourtant, dans la finitude de nos vies, nous nous sentons débordés avec effroi et émerveillement par l'infinité des temps et des espaces. Dans les limites de nos connaissances, nous touchons à des mystères insondables, à des pourquoi sans réponse. Dans l'étroitesse de nos cœurs, nous aspirons à un bien plus grand que tous ceux que nous pouvons imaginer. Dans la faiblesse de nos volontés, nous nous sentons requis par le chantier immense de la promotion d'un monde meilleur. Tu es la source mystérieuse de toutes choses, l'horizon de nos savoirs, l'objet de nos désirs inassouvis, la voix qui nous appelle. Nul ne t'a jamais vu, mais des hommes et des femmes habités par ta présence t'ont fait connaître à nous. Nous te rendons grâce pour eux tous. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ, qui en témoignant dans sa vie et sa mort d'une compassion bouleversante pour l'humanité, nous a révélé ton visage d'amour. Tu es l'infinie générosité qui donne l'être à tout ce qui est, la vie à tout ce qui vit. Nous voulons entrer dans la dynamique créatrice de ton amour en nous aimant les uns les autres.
Oh, no.
Les protestants ont beaucoup insisté, on le sait, sur le thème de la grâce. L'homme n'est pas pardonné et aimé pour ses mérites, mais gratuitement, gracieusement, quelles que soient ses qualités et ses défauts, ses réussites ou ses échecs, ses crimes ou ses bonnes œuvres. C'est la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Mais le grand théologien protestant Dietrich Bonhoeffer, qui a payé de sa vie son obéissance au Christ en mourant dans le camp de concentration de Flossenbürg, Bonhoeffer nous avertit d'un risque, d'une dérive de cette idée de grâce. Ben oui, puisque nous sommes aimés quoi que nous fassions, alors faisons n'importe quoi. C'est ce qu'il appelle la grâce à bon marché, à laquelle il oppose la grâce qui coûte. Nous écoutons à présent une page de Bonhoeffer tirée de son ouvrage « Le prix de la grâce ». La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et suit. La grâce qui coûte, c'est l'Évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier, c'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle est grâce parce qu'elle appelle à l'obéissance à Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est grâce parce que alors seulement elle fait à l'homme cadeau de la vie. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. Et en réponse à cet appel à l'obéissance, nous voulons exprimer notre disponibilité, dire « nous voici ». Et nous le ferons avec une prière du père Charles de Foucault. Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ça m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. Nous allons lire à présent les Écritures, et avant d'ouvrir les Écritures, nous prions, ce qu'on appelle la prière d'illumination, c'est-à-dire la prière qui appelle à être éclairée sur le sens des textes que nous allons lire. Et nous prierons avec l'écrivain juif, prix Nobel de littérature, Elie Wiesel. Seigneur, ta parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant. Comment ferais-je sans elle pour prier? Comment ferais-je pour pleurer, pour espérer? Quand je suis en danger, elle m'enveloppe. Quand je rêve, elle me protège des cauchemars. Que ta parole nous pénètre et nous abreuve pour que nous puissions recevoir d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, cet élan qui porte vers toi. Nous avons retenu des lectures de ce dimanche le texte de l'Évangile. C'est l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, et nous lirons les versets 1 à 14. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez, allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par des chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Nous disposons de cette parabole deux versions, celle de Matthieu que nous venons de lire et une autre dans l'évangile de Luc. Les deux textes sont suffisamment proches pour qu'on y reconnaisse une origine commune, mais en même temps ils présentent d'importantes différences. Le récit de Luc est très sobre. C'est l'histoire d'un homme qui organise un banquet. Il n'y est pas question de roi ni du mariage d'un fils, c'est un banquet. Et le moment venu, cet homme envoie ses serviteurs chercher les convives. Mais aucun n'est disponible et tous déclinent poliment l'invitation. Alors, fâché de ces refus à répétition, l'homme décide de convier à son repas eh bien, tous ceux qui voudront bien y venir, tous ceux qui traînent sur les places et dans les rues et qui n'ont rien d'autre à faire. On reconnaît là aussi la trame du récit de Matthieu, mais Matthieu a ajouté sur cette base beaucoup de péripéties. Il en a tellement ajouté que la cohérence de l'histoire est peut-être mise en péril. En effet, est-ce que vous connaissez beaucoup, chers auditeurs, de repas de noces qui se déroulent dans un bain de sang ? C'est pourtant ce qui se passe chez Matthieu, où les serviteurs qui apportent les invitations sont violentés et tués, et où le roi envoie son armée massacrer les invités et détruire leur ville. Et même à la fin, on trouve encore une nouvelle violence, où un homme est expulsé manu militari de la salle de banquet. Étrange. Alors ce récit commun dans les deux versions, on pourrait dire la version douce de Luc et la version violente de Matthieu, se réfère à une situation dont on ne mesure certainement plus bien aujourd'hui à quel point elle a dû être préoccupante, elle a dû constituer un tourment pour les esprits de l'époque. Cette situation, c'est celle d'une invitation refusée, c'est-à-dire celle du rejet par une partie d'Israël de celui qu'une autre partie d'Israël tenait pour le Messie. Cette situation déstabilisante, c'est aussi celle d'une invitation scandaleuse, c'est-à-dire de l'élargissement aux païens, de l'alliance jalousement conclue par Dieu avec son peuple. Il faut essayer d'imaginer voilà, les conflits qui a dû se produire à l'intérieur du judaïsme du temps du Christ. Quel choix crucial que de décider si un homme est un envoyé de Dieu ou au contraire un blasphémateur. Quel séisme moral de devoir reconnaître comme un invité de Dieu celui que l'on tenait hier encore comme un impur et un impie. Et Matthieu a une conscience extrêmement vive du caractère dramatique de ce moment historique décisif, qui est donc le moment de la naissance du christianisme. Et quitte à mettre en péril la cohérence de son histoire, il souligne justement la violence terrible qui marque cette crise religieuse. Violence exercée contre Jésus crucifié et contre ses disciples persécutés. C'est ce qu'évoque le verset 6, sur les serviteurs outragés et tués. Mais aussi violence de ce que l'historien Flavius Joseph a appelé la guerre des Juifs, qui est à la fois guerre contre l'occupant romain et guerre civile. Et il est très probable que le verset 7, sur ces horribles représailles que le roi fait subir aux invités qui ont tué ses serviteurs, il est très probable que ce verset fasse référence justement aux atrocités de la guerre des Juifs. C'est-à-dire qu'ici, Matthieu a une lecture théologique de l'histoire et il interprète les événements terribles de la guerre des Juifs comme une conséquence du refus du Christ par une partie d'Israël. Évidemment, c'est une lecture à laquelle nous prenons nos distances aujourd'hui, mais c'est vraisemblablement ainsi qu'il faut comprendre historiquement ce texte. Mais justement, il s'agit d'une compréhension historique, c'est-à-dire que ces questions qui étaient brûlantes, la question de la manière dont le christianisme s'enracine dans le judaïsme, c'est une question brûlante donc au moment de la rédaction des évangiles, mais c'est finalement une question qui ne nous concerne plus beaucoup aujourd'hui. Alors est-ce que ce texte, finalement, il a quelque chose à nous dire à nous aussi? Alors dans l'histoire de l'Église, on a cherché du sens, un sens actuel, à ces paraboles du royaume en interprétant les paraboles du royaume comme des paraboles de la fin des temps ou de l'au-delà. Le royaume de Dieu, c'est au ciel, après l'histoire, après la mort. Mais ces interprétations me dérangent, car dans l'Évangile, lorsque Jésus annonce le royaume de Dieu, il l'annonce toujours comme une réalité imminente et même une réalité déjà commencée. Et donc je crois qu'il faut résister à la double tentation, celle d'une part d'enterrer les paraboles dans la tombe d'un passé qui ne nous concerne plus, et d'autre part celle, on pourrait dire, de les éthérer dans une spéculation sur un avenir dont nous ne savons rien. Alors, voilà, si on ne veut pas ni fuir dans le passé, ni fuir dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Eh bien, il me semble trois choses qui correspondent à trois paradoxes présents dans le récit. Premier paradoxe, l'invitation dont il s'agit concerne un festin de noces. C'est-à-dire que les invités sont conviés à se réjouir, à partager le bonheur d'un père qui marie son fils, à boire et à manger le veau gras, celui qu'on tue pour les grandes occasions, celui par exemple que l'on fait tuer pour le retour du fils prodigue. Mais alors pourquoi refuser de si bonnes choses? Comment comprendre que les invités déclinent une offre si intéressante? Que l'on cherche à se défiler quand il s'agit d'une corvée, soit, mais une fête. Tout se passe ici à l'envers. Les invités préfèrent aller travailler, l'un à son champ, l'autre dans son magasin, plutôt que d'aller s'amuser à la fête. Quelle austérité! On dirait presque des protestants. Ce premier paradoxe nous fait réfléchir. Ne sommes-nous pas nous-mêmes parfois des invités insensés qui refusons la joie qui nous est offerte? Le Christ nous invite en effet à le suivre sur le chemin du royaume, ce chemin d'humilité et de bonté que trace le sermon sur la montagne. Ce chemin dont le mot, le maître mot, le mot qui est scandé régulièrement, est celui de heureux. C'est le leitmotiv des béatitudes. Mais n'avons-nous pas justement souvent peur de ce bonheur qui coûte, pour parler comme Bonhoeffer, de ce bonheur qui nous arrache au train-train de nos existences? C'est si confortable, après tout, de labourer son champ et de tenir son magasin. Et c'est si risqué de mettre le doigt dans l'engrenage du service et de l'amour du prochain, dans l'engrenage de l'évangile du sermon sur la montagne. Alors, deuxième paradoxe, l'invitation boudée par les premiers choisis, est ensuite proposée à tous. Luc nous parle des pauvres, des estropiés, des aveugles, de tout ce peuple misérable qui traînait sans doute dans les carrefours et sur les places. Il nous donne l'image saisissante d'un banquet de gueux, une image qui me fait penser à cette célèbre gravure de Rembrandt que vous connaissez sans doute, la pièce aux 100 florins, où l'on voit toute une foule de miséreux qui se pressent autour du Christ. Mais Matthieu va beaucoup plus loin que Luc. Il ne nous parle pas des pauvres, des estropiés, des aveugles. Il nous parle des méchants et des bons. Oui, paradoxe, les méchants comme les bons sont appelés à entrer dans la joie du royaume. Alors on veut bien, à la rigueur, on est assez chrétien pour ça, on veut bien que les pauvres, les estropiés, les rejetés, les étrangers soient invités. Mais qu'en est-il des salauds, des tortionnaires, des terroristes? Cet abruti de voisin avec qui on est en conflit, le collègue qui nous a fait des crasses, le partenaire toxique. C'est bien difficile à admettre, mais ils sont eux aussi invités au grand banquet des noces, méchants et bons, ceux que nous jugeons méchants et ceux que nous jugeons bons. Ce second paradoxe nous interroge non plus cette fois en tant qu'invités, qui pouvons dire oui ou non, mais en tant que serviteurs chargés d'apporter les invitations. Quel regard portons-nous sur ceux que nous rencontrons? Les considérons-nous comme des êtres aimés de Dieu, comme des femmes et des hommes qui, quels qu'ils soient, conservent une inaliénable valeur, comme des personnes qui, quoi qu'ils aient fait, sont promises à un avenir? Et cela ne concerne pas, bien entendu, seulement les grands méchants, car Dieu merci, nous n'en croisons pas trop. Mais cela concerne tous ceux que nous n'aimons pas trop, tous ceux que nous avons définitivement catalogués. Le Maître nous demande de leur porter une invitation à la joie. Le texte nous offre enfin un troisième paradoxe. Après le paradoxe donc du refus du bonheur, pourquoi refuser le bonheur? Et le paradoxe de la bénédiction des méchants, oui, les méchants sont invités comme les bons. Ce troisième paradoxe ne nous concerne plus cette fois-ci en tant qu'invités, ni en tant que messagers chargés d'apporter les faire-part, mais en tant que convives festoyants à la table du Seigneur. Faut-il réellement s'étonner, quand on invite n'importe qui, comme c'est le cas dans le texte, qu'il y ait des gens qui ne sachent pas se tenir à table? On dit, et c'est là le paradoxe, « Venez tous, venez comme vous êtes, comme à McDo, venez comme vous êtes. » Et on s'étonne que certains ne respectent pas le dress code, car c'est ce que nous dit le texte. Certains ne se sont pas endimanchés. Ils sont venus au mariage du prince en short et en tongs. Alors, paradoxe, oui, d'une invitation ouverte à tous et où on met dehors celui qui ne respecte pas les conventions. Eh bien, ce paradoxe, je crois, c'est celui dont nous a parlé tout à l'heure Bonhoeffer, celui d'une grâce qui coûte. Et nous l'entendons là, le paradoxe, une grâce qui coûte, un don gratuit qui coûte cher. Car oui, l'invitation est gratuite, universelle, elle ne tient pas compte des titres et des mérites. C'est l'évangile de la pure grâce, du don sans condition. Mais cet honneur insigne d'être convié à la table du roi oblige, il engage, il appelle à se montrer digne de cette invitation inespérée. C'est l'évangile de la grâce, mais de la grâce qui coûte, l'évangile de l'obéissance au Christ. Voilà donc la question ultime, me semble-t-il, que nous pose ce texte. Quel est notre christianisme ? Est-ce un christianisme qui nous pousse à nous faire beau, à honorer l'invitation reçue, à rayonner de la joie de la fête ? Ou bien est-ce un christianisme négligé, débraillé, sans exigence et sans désir ? Un christianisme en habit de noce ? Ou un christianisme en short et en tongs ?
Oh.
Nous venons d'entendre un extrait de la cantate BWV 162 de Jean-Sébastien Bach, qui est justement sur le texte de Matthieu 22. Et nous confessons à présent notre foi. Je crois en Jésus le Christ, qui nous a révélé Dieu comme Père, comme amour infini. Je crois en Jésus le Christ qui a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusque dans la mort, et qui par son amour a redonné vie à des existences mortes. Je crois en Jésus le Christ qui n'est pas mort, mais qui peut par son esprit vivre en nous et nous faire vivre, en nous donnant l'assurance d'être aimés, en nous donnant la force d'aimer. Nous nous sommes unis à travers cette confession de foi et à présent, nous voulons nous unir encore plus largement en portant dans nos pensées tous ceux qui souffrent. C'est le moment de la prière d'intercession. Notre Dieu, parce que tu es le Père de tous les hommes sont nos frères. Notre compassion va vers ceux qui souffrent de la guerre, en Ukraine, dans le Haut-Karabakh, en Israël et en Palestine, et dans beaucoup d'autres lieux. Nous te prions aussi pour les migrants qui ont tout quitté dans l'espoir d'un avenir meilleur et qui tombent aux mains de mafias sans scrupules et sont souvent rejetés lorsqu'ils parviennent chez nous. Nous pensons également aux victimes des désastres écologiques et des catastrophes climatiques qui frappent plus durement les plus pauvres. Donne à chacun la force d'affronter ces situations. Préserve leur désir de justice de toute haine. Notre prière va également vers ceux que la frustration ou l'humiliation ont rendu violents, vers ceux qui, par leur domination, sans même parfois s'en rendre compte, frustrent, humilient et violentent. Apprends à chacun de nous, car en cela aussi nous sommes frères, à substituer la douceur à la force, le pardon à la vengeance. Nous ne voulons pas oublier dans notre prière tous ceux qui se réclament de l'Évangile ou ne s'en réclament pas, tous ceux qui luttent et se tiennent debout pour rendre le monde plus fraternel. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour eux. Exauce la prière vivante de leurs actions. Notre Dieu, nous nous sentons à la fois un peu coupable et très impuissant face au grand drame qui secoue notre époque. Il est bien difficile de garder l'espérance tant l'horizon semble bouché et les réponses apportées insuffisantes quand elles n'entraînent pas elles-mêmes de nouveaux problèmes. Nous croyons pourtant que le monde est aimé de toi et qu'en dépit du chaos apparent, tu le conduis quelque part. Ton amour est notre dernière certitude. Amen. Et pour terminer ce culte, nous recevons une parole de bénédiction en écho avec le texte de ce jour. Vous êtes toutes et tous, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait ou pas fait, invités à entrer dans la joie de la noce. Que cet avenir inespéré qui vous est offert vous transforme et vous fasse resplendir de joie. Amen. Thank you.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.